Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le monde était encore un monde de territoires économiquement égaux. Le revenu moyen par habitant en Inde, en Chine, en Europe et en Amérique du Nord était à peu près le même, tandis que régnait dans tous ces pays l'immémoriale inégalité interne entre tout au plus 20% de la population, les aristocrates, le haut clergé, les premiers bourgeois d'une part, qui s'approprient et consomment l'essentiel du surplus économique, c'est-à-dire la production qui dépasse ce qui est nécessaire à la simple survie, et d'autre part, la masse des 80% restants, les producteurs, paysans et artisans, qui vivent dans une grande pauvreté, jamais très loin du niveau de survie. Puis, avec la première révolution industrielle qui débute en Angleterre au milieu du XVIIIe siècle, l'inégalité du monde va être bouleversée. Voici comment. Ce graphique est dû à Bourguignon et Morrison. Il montre les grandes tendances, d'une part des inégalités internationales, c'est-à-dire des inégalités entre pays, mesurées par les écarts de revenus moyens par habitant, et d'autre part, les inégalités de revenus internes au pays. La composition des deux, inégalité internationale, inégalité interne, donnant une inégalité mondiale ou globale, c'est-à-dire l'inégalité au sein de la population mondiale prise comme un tout. On voit sur ce graphique qu'au cours du XIXe siècle, ce sont principalement les inégalités entre territoires qui se sont creusées. La révolution industrielle en Angleterre ne s'est pas propagée rapidement à l'ensemble du monde, mais uniquement en Europe du Nord, en Amérique du Nord, puis au Japon, creusant au cours du siècle des écarts considérables entre ce qu'on allait appeler un Nord industrialisé et un Sud sous-développé. Les inégalités internes au territoire, quant à elles, ont progressé au cours du XIXe siècle, en particulier en Europe dans les premiers temps du prolétariat industriel naissant. Mais au plan mondial, cette inégalité interne augmente très lentement. On constate ensuite, et c'est spectaculaire, le caractère très singulier de ce que les historiens ont appelé le court ou le premier XXe siècle, c'est-à-dire entre 1918 et la fin des années 80. Donc, en fait, la période d'existence de l'Union soviétique. C'est la seule période où les inégalités internes au territoire ont fortement diminué, au point même de stopper l'augmentation des inégalités mondiales. Puis, troisième période, à partir des années 80, les inégalités internes reprennent leur ascension, alors que les inégalités entre territoires stagnent, puis commencent en fin de période à se réduire, grâce en particulier au rattrapage de la Chine et de l'Inde. Cette période se prolonge jusqu'à aujourd'hui. L'accroissement des inégalités internes des revenus et des patrimoines a été très bien documenté par Atkinson, Piketty et l'évolution des inégalités mondiales par Milanovic et son célèbre graphique en éléphant. Ce graphique montre l'évolution entre 1988 et 2008 des revenus de la population mondiale. On a classé cette population par centile, du centile le moins riche au centile le plus riche. C'est-à-dire qu'on a classé toute la population mondiale par revenu croissant, et on a pris le centième le moins riche, puis le centième juste un peu plus riche, jusqu'au centième le plus riche. Et on calcule le revenu moyen de ces centièmes et comment il évolue dans le temps. Commençons par la queue de l'éléphant. Les plus pauvres parmi les pauvres ont stagné. Mais beaucoup de pauvres sont sortis de l'extrême pauvreté, en particulier en Chine. Les grands gagnants, ceux dont le revenu est le plus augmenté, sont d'une part les classes moyennes émergentes des pays émergents, le dos de l'éléphant, et les 1% des plus riches, partout en Chine comme aux États-Unis. Donnant naissance à ce que Milanovic, qui n'est cependant pas un gauchiste, n'hésite pas à appeler une ploutocratie mondiale. C'est la trompe de l'éléphant. Les grands perdants sont les classes moyennes des pays riches, ici, qui sont laminées. La question de savoir si depuis 3 décennies, c'est la mondialisation qui est coupable, si c'est la mondialisation qui est la cause de l'évolution contrastée de ces inégalités, est donc une question discutée. Évolution contrastée, car si les inégalités internes s'accroissent, les inégalités entre pays, elles, décroissent. Dans ce chapitre, après avoir défini les globalisations, et vous allez voir pourquoi je préfère le terme « les globalisations » au terme « la mondialisation », dans ce chapitre, je propose un nouveau modèle d'analyse de l'effet des globalisations sur les inégalités internes au territoire, tant dans les territoires rattrapés, Europe, États-Unis, que dans les territoires rattrapants comme la Chine ou l'Inde. Ce qu'on appelle mondialisation, c'est la circulation internationale de plus en plus libre et qui s'intensifie de biens et services, de titres, de monnaie et d'informations, donc de connaissances et de savoir-faire, mais pas des hommes eux-mêmes, ou très peu. Les frontières continuent par conséquent d'exister pour les hommes et l'économie mondiale reste découpée en territoires sous souveraineté d'État. Mieux vaut donc parler de globalisation au pluriel. On peut en distinguer 3. Étroitement interdépendante, évidemment. La globalisation numérique, qui fait massivement circuler les informations numérisables et rend possible la coordination efficace d'activités dispersées dans le monde entier et éventuellement d'activités de robots dispersées dans le monde entier. Avec le container qui a provoqué l'effondrement du coût de transport terrestre et maritime, la globalisation numérique constitue la base technique des 2 autres globalisations, que sont la globalisation financière et la globalisation des firmes. La globalisation financière, c'est simple, c'est la circulation d'énormes masses de capitaux à travers les frontières, à la recherche des actifs financiers dont le couple rendement-risque est le plus attractif pour eux. La globalisation des firmes, c'est qu'aujourd'hui, des firmes globales, nous l'avons décrit au chapitre précédent, mettent tous les territoires en compétition pour la localisation de chaque segment des chaînes de valeur conduisant des matières premières au produit final. Ceci m'a conduit dès 1996 avec la publication de mon essai « L'inégalité du monde » et depuis à proposer un cadre analytique des globalisations, cadre fondé sur la distinction entre emploi nomade et emploi sédentaire au sein de chaque territoire. Les emplois nomades sont les emplois qui sont soumis à une compétition avec des emplois nomades dans d'autres territoires et qui peuvent donc changer de localisation. Les emplois sédentaires produisent des biens et services échangés uniquement à l'intérieur du territoire, voire très localement. Cette distinction emploi nomade-emploi sédentaire ne recouvre absolument pas la distinction industrie-service, qui d'ailleurs est de moins en moins pertinente, car ce qui est échangé, ce sont des associations biens-service. La distinction emploi nomade, emploi sédentaire est celle-ci. Si vous voulez savoir si un emploi est nomade ou sédentaire, vous vous posez la question suivante. Si quelqu'un ou une entreprise perd de sa compétitivité, au sens propre, vis-à-vis de ses concurrents, les gens tombent au chômage. Est-ce que leur emploi peut être recréé ailleurs? Je dis bien peut. Il peut être recréé dans le même territoire. Est-ce qu'il peut être recréé ailleurs? Alors, c'est un emploi nomade. Si en revanche, c'est le boulanger de votre rue qui perd sa compétitivité, son pain est de plus en plus mauvais, personne ne va chez lui. Il ferme. Mais la demande de pain dans votre rue restant la même, il va éventuellement être embauché, lui ou un jeune, par l'autre boulanger qui va doubler son chiffre d'affaires. C'est un emploi sédentaire. Exemple d'emploi nomade, l'industrie manufacturière, mais aussi les paysans, et toute une série de services, comme les services aux entreprises, les banques d'affaires, l'ingénierie, les call centers, et bien sûr le tourisme. Exemple d'emploi sédentaire, naturellement les services de proximité, le commerce, l'enseignement, la santé, bien que certains emplois de santé peuvent devenir nomades avec les robots, et les administrations publiques, mais aussi des emplois industriels, dans la fourniture d'électricité qui voyage très peu, d'eau qui voyage pas du tout, ou de ciment, de matériaux de construction, et les bâtiments et travaux publics. Là aussi, on trouve des services et de l'industrie. Le cadre analytique de ce modèle, fondé sur la distinction nomade-sédentaire, peut être décrit par ce schéma. Deux territoires, l'un riche et rattrapé, l'autre encore pauvre et émergent. Dans chaque territoire, des emplois nomades, des emplois sédentaires et des poches de non-emploi. Les emplois nomades produisent des biens et services qui s'échangent à travers les frontières et sont donc tous en compétition entre eux à échelle mondiale. Ce sont les flèches en rouge. Les emplois sédentaires, quant à eux, produisent pour eux-mêmes et pour les nomades des biens et services locaux que les nomades utilisent comme moyen de production et consommation intermédiaire et qu'ils consomment avec leurs revenus de nomades. Ce sont les flèches en bleu. Quand les créations d'emplois nomades et sédentaires sont insuffisantes dans le territoire, on trouve dans les soutes du secteur sédentaire une couche d'hommes que j'ai appelés, de manière provocante, les hommes inutiles, les hommes économiquement inutiles, les chômeurs, ceux qui n'ont pas accès à l'emploi et ceux qui enchaînent des petits boulots précaires qui ne leur permettent pas de progresser. Ils sont inutiles aux autres, mais avant tout à eux-mêmes. Alors ça ne veut pas dire, soyons très clairs, qu'ils sont inutiles socialement. Certains d'entre eux exercent des activités bénévoles dans la société de la plus immense utilité sociale. Et ils peuvent être absolument utiles à leur entourage proche ou lointain. Mais ils aimeraient tout simplement pouvoir en vivre. Et c'est de cela dont il s'agit. Donc ça, ce sont les soutes. Au-dessus de chaque territoire, planant pour ainsi dire, nous avons les firmes globales qui, par leurs investissements directs, font circuler intensément connaissances et savoirs techniques. Et bien évidemment, elles transfèrent ces connaissances et savoirs techniques, elles les transfèrent de là où ils sont initialement les plus développés, dans les pays rattrapés, vers ceux qui rattrapent les pays émergents. Ce sont les flèches en gris dans ce schéma. En écrivant les relations économiques entre ces différents acteurs, on peut construire un modèle dynamique de l'inégalité des revenus entre nomades et sédentaires, et on peut montrer que cette inégalité ne dépend que de deux variables. Tout d'abord, le nombre relatif d'emplois nomades dans l'emploi total, et ensuite, le degré de préférence des consommateurs du territoire pour les biens sédentaires de leur territoire. Ceci se démontre très simplement, mais en vérité, c'est très intuitif. Dans un territoire, si le nombre relatif des emplois nomades augmente, eh bien, ils consomment plus de biens et services sédentaires et par conséquent, les écarts de revenus entre les deux groupes se réduisent. Réciproquement, si dans un territoire, le nombre relatif des nomades s'érode, eh bien, ils commandent de moins en moins de biens et services sédentaires et de plus, les sédentaires sont plus nombreux qu'auparavant, car les nomades qui ont perdu leur emploi se sont déversés, comme aurait dit Alfred Sauvy, dans le secteur sédentaire. Résultat, des sédentaires sont plus nombreux alors que la demande qui s'adresse à eux est réduite, et par conséquent, les revenus des sédentaires baissent et l'inégalité entre eux et les nomades s'accroît. Si les préférences pour les biens sédentaires de l'ensemble des consommateurs s'accroissent. Autrement dit, s'ils sont plus nombreux à, par exemple, Préférez passer une bonne soirée au bistrot à vin de pays d'à côté, puis au théâtre avec des amis, plutôt que de regarder avec eux une série américaine via Netflix sur leur écran Lenovo en mangeant des pizzas surgelées. Dans un cas, il y a création d'emplois nomades et pas nécessairement dans le territoire, dans mon exemple, surtout ailleurs. Et dans le second cas, il y a appel, recours à des emplois sédentaires. C'est une façon de relocaliser la satisfaction de la demande locale. Réciproquement, si la préférence pour les biens et services sédentaires décroît, eh bien les inégalités entre les nomades et les sédentaires s'accroissent. Voilà donc nos deux facteurs, le nombre relatif de nomades et la préférence de l'ensemble pour les biens et services sédentaires. Que s'est-il passé depuis 30 ans? Tout d'abord, c'est essentiel, et on l'a bien vu dans le graphique de l'éléphant, l'émergence rapide de l'Asie de l'Est puis du Sud, c'est-à-dire une spectaculaire réduction des inégalités internationales. Les globalisations en sont incontestablement la cause, essentiellement par les transferts de connaissances via les firmes globales et l'apprentissage rapide par production et exportation massive. L'enjeu du siècle, soyons-en bien conscients, c'est désormais l'émergence de l'Afrique. Et l'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants dès 2050. Et pour que l'Afrique émerge, il faut que les firmes globales, en particulier celles des pays émergents, Chine, Inde, Brésil, y investissent massivement. Et que s'est-il passé depuis 30 ans dans les pays riches rattrapés? En un mot, le nombre des nomades a décru, et ceci n'a pas été compensé par une augmentation de la préférence pour les biens et services sédentaires. Donc, l'inégalité de revenus entre nomades et sédentaires s'est accrue. Voici les chiffres d'une étude récente que Philippe Froquerin et moi avons fait pour la France. Contrairement à ce qu'on pourrait penser à l'heure des globalisations triomphantes, en France par exemple, les emplois nomades, ceux exposés à la compétition internationale, ne représentent que 27% des emplois. Et ils ont perdu 3 points depuis 15 ans. Au sein des 27% d'emplois nomades, la moitié sont déjà des emplois de service, dont ceux du tourisme, de services financiers, services aux entreprises, ingénierie. Les emplois industriels et agricoles ne comptent plus que pour la moitié désormais des emplois nomades sur le territoire français. Et les écarts de salaire sont croissants entre nomades et sédentaires, comme le pronostique mon modèle. Ce phénomène, rassurez-vous, n'est nullement propre à la France. Il se constate en Allemagne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie, au Danemark, comme pratiquement dans tous les pays rattrapés. Sur ce schéma, vous voyez l'évolution du nombre relatif de nomades dans tous les pays que j'ai cités. Partout, il décroît, même dans la fameuse et concurrente industrie allemande. Voici l'évolution ici, non pas des salaires, mais de la valeur ajoutée par emploi, du ratio entre la valeur ajoutée par emploi nomade et la valeur ajoutée par emploi sédentaire. L'inégalité entre nomades et sédentaires augmente dans tous ces pays. Voilà pour les pays rattrapés. En Chine, en revanche, le nombre relatif des nomades a subi ici une purge à la fin des années 90, lors d'une grande vague de restructuration des vieilles industries d'État. Puis, le nombre des nomades reprend sa progression. Mais les inégalités internes aussi. Car en Chine, les inégalités entre nomades et sédentaires sont plus élevées que dans les pays rattrapés, et vous le voyez, elles sont également croissantes. En effet, malgré le nombre croissant de nomades, les individus qui occupent ces nouveaux emplois nomades se détournent des biens sédentaires produits dans les campagnes profondes de la Chine, au profit de biens nomades qu'ils produisent eux-mêmes ou qui sont importés. Si bien que la croissance du nombre et l'enrichissement des nomades en Chine ne tirent que très lentement les énormes masses rurales productrices de biens et services sédentaires et que l'écart entre les deux s'accroît. Rappelons tout de même que cela a tiré de la pauvreté 400 millions de Chinois. De ce modèle se déduisent un certain nombre de préconisations si l'on souhaite, décision politique, réduire les inégalités internes entre nomades et sédentaires engendrées par les globalisations. En Chine, cela passe principalement par le recentrage de l'économie sur son secteur sédentaire. Dans ce pays qui a pratiquement terminé son rattrapage technologique, le temps est venu pour une phase de croissance plus auto-centrée et, soit dit en passant, plus respectueuse de l'environnement. Comme l'avaient été d'ailleurs les croissances de rattrapage de l'Europe et du Japon, rattrapage des États-Unis, dans les années 50 à 70. Dans les pays rattrapés, où nous avons vu que l'inégalité s'accroît entre nomades de moins en moins nombreux et sédentaires. Il s'agit d'une part d'accroître l'attrait du territoire pour les emplois nomades, de manière à ce que leur nombre relatif cesse de diminuer, voire ce qu'il augmente à nouveau. Cela passe bien évidemment par des politiques bien identifiées et des presque ressassées de stimulation de la recherche-développement et de l'innovation dans l'industrie, et par la formation professionnelle et scientifique et technique. Mais, à mon avis, en Europe, cela passe aussi par un certain mercantilisme. Mercantilisme que pratique avec maestria le gouvernement chinois. En particulier, il faudrait faire, au niveau européen bien sûr, comme le gouvernement chinois, pour certains produits, tout simplement conditionner l'accès au marché européen, qui reste l'un des, sinon le principal marché mondial, à un certain taux de valeur ajoutée locale en Europe. Aujourd'hui, par exemple, si Airbus vend un avion en Chine, il doit fabriquer 30 à 40% de cet avion en Chine. Il s'agirait d'appliquer en ce domaine, dans certains secteurs dont nous voulons attirer les emplois, une politique de réciprocité. En bref, il ne s'agit pas, comme dans le protectionnisme, d'entraver le moins du monde la circulation des marchandises. Mais il faut dire, pour accéder à mon marché intérieur, vous devez venir investir et créer des emplois nomades chez moi. Donc bienvenue aux produits, mais aussi aux investissements chinois, indiens, brésiliens, etc. Et voici donc ce qu'il faut faire pour accroître l'attrait du territoire, afin de ralentir et d'inverser les pertes d'emplois nomades, source d'inégalités avec les emplois sédentaires. Mais pour réduire ces inégalités et le non-emploi, c'est-à-dire l'inutilité économique, qui en est la forme extrême, un second type de politique consiste à accroître la qualité et la compétitivité des biens et services sédentaires, produits localement, de manière à ce que les nomades plus nombreux et les sédentaires en consomment plus. Des politiques, aujourd'hui, à mon avis, encore trop négligées. Je vous ai présenté un modèle et les préconisations qu'on peut en tirer si l'on souhaite réduire certaines des inégalités engendrées par la globalisation, sans pour autant empêcher la poursuite du mouvement de rattrapage et de réduction des inégalités internationales qui doit s'achever avec l'Afrique et bien sûr l'Amérique latine et l'Asie du Sud, de manière à ce qu'on retrouve la situation de la fin du XVIIIe siècle où le monde est un monde de territoires égaux. Les inégalités internes seront largement ce qu'en feront les peuples concernés, qui peuvent présenter à l'égard des inégalités internes des sentiments ou des opinions assez différentes. Il est connu que certains peuples tolèrent moins que d'autres de fortes inégalités économiques internes. Ce modèle est le mien. Il est nouveau, alors que la plupart des modèles que je vous ai proposés dans les chapitres précédents ne sont pas les miens, même si j'ai travaillé également sur des modèles de commodité et un peu sur des modèles d'instabilité financière. Pour terminer, j'aimerais récapituler à quoi servent les modèles et donc l'économie. Nous partons toujours d'une question. Pour analyser cette question, nous construisons un cadre analytique. Dans ce cadre, nous construisons les modèles les plus simples possibles. Nous appliquons le rasoir d'Occam. Plus c'est simple, mieux c'est. Qu'est-ce qu'apporte un bon modèle? Un bon modèle apporte une nouvelle compréhension de la réalité, met l'accent sur quelque chose qu'on n'avait pas observé. Permet de voir les mêmes choses sous un autre angle. Permet de mettre en évidence le rôle de facteur qu'on avait négligé. S'il est bien calibré sur la réalité, il permet des prédictions. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer si, dans les pays rattrapés, le nombre des nomades continue à diminuer et si ceci n'est pas compensé par une forte augmentation de la préférence pour les biens et services sédentaires. Dans ce cas, les inégalités entre les deux vont continuer à augmenter et des hommes vont continuer à s'accumuler dans les soutes d'inutilité. Enfin, si, après avoir exprimé une préférence, toujours politique, eh bien, le modèle permet de dire, de faire des préconisations et de dire ce qu'il convient de faire pour prendre une autre direction. J'espère ainsi vous avoir présenté les principes de l'économie et leur application à une assez vaste gamme de questions contemporaines.